Quand je découvre de nouvelles méthodes pour être écolo au boulot, pour convaincre, ou des réglementations que je voudrais explorer, ou encore des guides super bien faits, je suis toujours très enthousiaste. Et là, j'ai deux réactions inutiles. Soit j'enregistre la ressource pour l'utiliser plus tard, et en général, elle prend la poussière dans mon dossier de téléchargement parce que je n'en ai pas besoin dans l'immédiat. Ou alors, je me dis que je saurai retrouver l'information le jour où j'en aurai besoin. Et évidemment, je ne m'en souviens pas le jour où j'en ai effectivement besoin. Et alors je perds un temps fou à refaire des recherches pour retrouver ces informations et pouvoir les appliquer. Sans parler du temps passé à lire les ressources pour y tirer l'information dont j'ai besoin à cet instant T. Vous savez, les guides de 150 pages. Bref, si ça vous parle et que vous êtes comme moi, vous allez adorer le KitScale. Le KitScale, c'est la nouvelle plateforme proposée par GreenScale. Une base de connaissances avec des définitions, des thématiques, des lois et des réglementations. Sur chaque sujet ou loi, vous trouvez la question que vous vous posez et sa réponse. Courte, simple, efficace. Pas besoin de chercher dans un PDF avec 200 pages. En plus, il y a aussi une boîte à outils avec des modèles pour les responsables RSE pour ne pas perdre de temps et des affiches et des supports pour sensibiliser vos collègues. Tout est au même endroit. Et vous pouvez même poser une question si vous ne trouvez pas l'information que vous voulez. Le KitScale est en version bêta actuellement, et tout spécialement pour cet épisode sur les dragons de l'inaction, GreenScale offre une des ressources de la plateforme, la checklist des questions à se poser pour dépasser nos dragons de l'inaction en entreprise. Elle vous permettra de ne jamais oublier les barrières psychologiques qui peuvent limiter votre action écolo au boulot. Vous pouvez mettre pause et cliquez sur le lien dans la description de cet épisode pour la télécharger tout de suite. Si vous êtes intéressé pour faire partie du bêta KitScale, c'est dans le même lien. Je vous laisse cliquer pendant le jingle. Bonjour et bienvenue dans Écolo au boulot. Je suis Cassandre Joly et mon but est de donner du sens au travail à travers l'écologie. Ensemble, nous trouvons des idées, des astuces, de la motivation et de l'inspiration pour rendre son quotidien au travail plus écologique et se sentir utile. Pourquoi est-ce que face à la menace évidente du changement climatique, votre entreprise ou vos collègues ne bougent pas, ou ils bougent si peu ? Robert Gifford, qui est professeur de psychologie environnementale à l'Université de Victoria, l'explique à travers cette grande cause qu'il a appelée les dragons de l'inaction, et qui explique pourquoi les individus ont autant de mal à agir en faveur des enjeux climatiques et environnementaux. Les dragons de l'inaction, c'est une barrière psychologique, c'est un obstacle de notre cerveau sur nos décisions et nos actions. Mais une barrière, c'est différent d'un mur. Ça peut se défaire ou ça peut s'enjamber. Et ça, c'est la première bonne nouvelle. Ces barrières psychologiques existent, mais on peut les dépasser et faire changer les choses. C'est surtout changer de point de vue sur les choses, ce qui est finalement assez simple à faire. Donc aujourd'hui, on va faire le tour de ces 7 dragons pour comprendre ce qui bloque et trouver des manières de leur faire peur et qu'ils retournent se cacher au fond d'un lac ou d'une grotte. Ou au moins qu'on apprenne à les dresser, ces dragons. Bref, c'est parti, je vous propose de démarrer avec le premier dragon. Alors je leur ai donné des petits noms à ces dragons, et le premier, on l'appelle Limita. Elle représente les limites de notre cognition. Pourquoi les limites de notre cognition ? Parce que notre cerveau nous joue des tours. Si on n'est pas complètement conscient et informé du problème, on n'agit pas. Ou si le danger n'est pas immédiat, ou qu'on hésite sur les actions à mener, ou qu'on les sous-estime, qu'on ne voit pas comment nous-mêmes on peut régler le problème, eh bien, on ne va pas ou on va peu agir. Et c'est très visible dans notre rapport au changement climatique. Par exemple, le changement climatique, c'est quelque chose qui est lent. C'est pas forcément visible, ou en tout cas, pas de façon permanente aujourd'hui. Et c'est pas un danger immédiat non plus, contrairement à un lion qui nous sauterait dessus, et là, il faut qu'on réagisse. Donc, si je prends ma voiture plutôt que les transports en commun pour aller travailler, je vais pas en mourir, il n'y a pas de danger. Mais je contribue à un système qui réchauffe la planète et qui détériore nos conditions de vie. Il faut rendre le problème visible, peut-être par des imaginaires, par l'éducation, par les normes sociales,
par du dessin, par du retour sur action, parce que sinon on n'arrivera pas à palper ce sentiment d'urgence à changer. Et en plus de ça, notre perception du danger climatique peut être réduite. On peut ne pas avoir conscience du problème parce que le changement climatique, ce sont des éléments très imbriqués. C'est une science compliquée à comprendre. On a des causes, des conséquences en cascade, donc on ne fait pas forcément le lien entre la sécheresse, les problèmes du cycle de l'eau, le réchauffement climatique et la perte de biodiversité. D'ailleurs, dans mon métier, pour vous donner un exemple, je réexplique tout le temps la différence entre le CO2 et la pollution de l'air. Ce n'est pas le CO2 qui pollue nos villes, ce sont les particules fines et le dioxyde d'azote. Les vignettes critères, par exemple, qu'on a sur nos véhicules en France, elles sont basées sur les normes de qualité de l'air et pas sur le CO2. Le CO2, lui, il va réchauffer la planète et causer d'autres problèmes, mais ça veut dire qu'on peut avoir une voiture critère 1, donc peu polluante quand on parle de qualité de l'air, mais qui est quand même très émettrice en termes de CO2. Bref, il faut avoir cette information pour comprendre. Et voilà, là c'est un exemple, il y a beaucoup de personnes qui font pas cette distinction, donc il faut l'expliquer et le réexpliquer. Et d'ailleurs, je vais continuer sur cet exemple-là pour illustrer un troisième point, c'est on peut douter en fait que les solutions qu'on nous propose, elles soient efficaces. C'est-à-dire que, est-ce qu'on est sûr que les véhicules électriques, c'est mieux? Parce qu'il y a les batteries. Est-ce que c'est sûr que le tri des déchets, ça sert à quelque chose et que tout ne se termine pas dans le même bac au final et c'est pas trié derrière? Et cette hésitation-là, elle va clairement nous pousser à ne pas agir. Voilà, l'exemple sur le tri des déchets, je l'entends souvent en entreprise. Et d'ailleurs, parfois, c'est justifié. Donc ça permet de changer les choses. Donc il faut montrer à quoi ça sert. Ce qui se passe avant, pendant, après, justifier de l'efficacité de l'action. On peut donner les chiffres du recyclage qui est effectué dans l'entreprise, à quoi ça correspond avec des comparaisons simples. Par exemple, on a recyclé 3 tonnes de papier, ça équivaut à tant de kilos de CO2 économisés, et ça fait autant que telle distance en voiture. Et d'ailleurs, voilà aussi une photo du centre de tri, et bientôt on va organiser une visite, et vous pouvez vous inscrire par là. Voilà, c'est une façon de donner le plus d'informations possible pour montrer à quoi ça sert et que c'est efficace. Donc en gros, sur ce premier dragon de l'inaction Limita, pour l'adresser, il va falloir toujours faire des efforts de sensibilisation et de pédagogie. Il va falloir discuter avec les personnes, expliquer pourquoi c'est important, montrer pourquoi on est sûr que ça marchera, que c'est efficace. Parfois, c'est une manière de rendre visible quelque chose qui est invisible. Notre deuxième dragon, on va l'appeler IDEA, parce qu'elle représente nos idéologies. Nos idéologies, ce sont toutes nos croyances qui vont nous faire nous dire que ce n'est pas la peine d'agir parce que quelqu'un ou quelque chose réglera le problème, voire que le problème n'existe pas. Et la plus courante des idéologies, en tout cas que je vois en entreprise, c'est ce qu'on appelle le technosolutionnisme, c'est-à-dire penser que les technologies nous sauveront et vont régler le problème. Et c'est une croyance très risquée, parce que non seulement quand une technologie elle existe, si elle ne fait pas plus de mal que de bien, il faut être capable de la mettre en place à grande échelle, et ça prend du temps, et c'est une idéologie qui se base souvent sur des technologies qui n'existent pas à ce jour, qui sont pas encore matures, et qui peut-être n'existeront même pas encore vraiment avant 2050. Donc c'est une pensée bien trop optimiste, et bien trop risquée, parce que c'est aujourd'hui, maintenant, tout de suite, qu'il faut agir. Et donc, ce que je vous conseille face à ce type de réaction du genre « Non, mais on va avoir des voitures à hydrogène et des avions verts, il n'y a pas de problème. » Alors, vous pouvez faire des recherches pour montrer que c'est pas prêt, que c'est des technologies qui sont pas attendues avant 10, 20, 30 ans au mieux. Et donc, que vous puissiez démonter ces arguments ou pas, je vous suggère d'abord de répondre en disant « Bah, ouais, bien entendu, le jour où ces technologies seront matures, on pourra les utiliser si elles s'avèrent efficaces. Mais le risque qu'on prend en attendant est trop important et il faut agir dès maintenant. Ça sera toujours plus efficace de toute façon d'avoir agi aujourd'hui pour utiliser les technologies de demain. Elles n'en seront que plus efficaces si on a déjà mis en place plein de choses avant. En gros, vous déplacez ce problème et cette idéologie dans le temps. Et ou alors vous pouvez aussi proposer des technologies qui existent déjà aujourd'hui. Parce que ce soit Dans la mobilité, dans le bâtiment, dans l'énergie, il y a pléthore de technologies qui permettent d'économiser de l'énergie et émettre moins de CO2. Donc proposer de se concentrer sur ce qui existe aujourd'hui et demain, on verra. Voilà comment on dresse le dragon IDEA. Et quelle que soit l'idéologie, on va se recentrer sur aujourd'hui avec ce qu'on a, ce qu'on sait, ce qu'on peut faire qui facilitera la transition écologique en attendant que peut-être les technologies ou un être supérieur, mystique, nous vienne en aide. On va passer à notre troisième dragon qu'on va appeler Comp. Comp, c'est le dragon de la comparaison sociale ou la comparaison à autrui. Là-dedans, on retrouve plein de phrases que vous avez peut-être entendues, comme « Oui, mais s'il n'y a que moi qui le fais, ça sert à rien. » « Oui, mais si on oblige les entreprises à investir dans le développement durable ou qu'on leur met des interdictions, elles vont perdre de la compétitivité par rapport à celles qui n'ont pas ces obligations. » « Oui, mais c'est d'abord aux Chinois et aux États-Unis d'agir parce que c'est eux qui polluent le plus. » Vous avez déjà entendu ces phrases ? C'est de la comparaison. On n'a pas envie d'être le dindon de la farce, d'être le premier à se mouiller et que les autres en profitent derrière. Ce sont des personnes qui sont profondément contre l'injustice qui vont avoir ce type de réflexion. Et la justice, c'est une belle valeur, on peut pas leur en vouloir. Mais avec cette valeur de justice, vient notre dragon Comp, qui fait qu'on n'agit pas, alors que c'est quand même pour notre bien individuel et collectif qu'il faut se bouger. Donc, avant d'argumenter là-dessus et de sauter sur les personnes en disant « oui, mais tu sais… » Déjà, prenez un temps et reconnaissez ce que la personne vous dit. Oui, c'est vrai. Toute la transition écologique ne repose pas entre tes mains. Oui, c'est vrai. Les États-Unis ont beaucoup plus d'efforts que nous à faire. Oui, c'est vrai. Le sujet de la compétitivité des entreprises à l'international, c'est un sujet important. On minimise pas ces arguments parce qu'ils sont tout à fait entendables. Comme ça, vous montrez à votre interlocuteur que vous avez écouté et accueilli son avis. Et même vous êtes d'accord avec lui. Puis ensuite, on remet le focus de la conversation sur le fait que c'est une question collective et de solidarité. Tout le monde, absolument tout le monde, doit se poser la question et améliorer ses pratiques pour moins impacter notre environnement. Alors peut-être que les États-Unis devront le faire plus. Peut-être qu'il y aura une différence de temporalité de quelques années entre deux réglementations dans le monde, mais globalement, tout le monde va devoir changer. Il y a peut-être aussi des biais dans ce que ces personnes vous disent que vous pouvez corriger. Par exemple, en rappelant que rapporté à la population, les émissions de CO2 de la Chine, elles sont pas si élevées que ça, et que surtout, elles produisent tout ce que nous, on va acheter et consommer. Donc on est ensemble quelque part là-dedans, on doit travailler avec la Chine pour ensemble collectivement réduire notre impact carbone. Et puis d'ailleurs, si tout le monde pense comme ça, personne ne fait jamais rien, et il n'y a plus qu'à prier pour que les impacts du dérèglement climatique nous soient moins durs à nous qu'aux autres. Sauf que le CO2, lui, il connaît pas les frontières. Hein. Il réchauffe notre planète globalement, et les épisodes de sécheresse, de canicule, de pluie violente, ils se fichent de savoir s'ils s'abattent sur la France ou ailleurs. Mais que quand même, c'est pas juste parce que les Chinois, ils polluent plus, donc ils devraient avoir plus de sécheresse. Ben non, ça fonctionne pas comme ça. Et d'ailleurs, les Chinois, qu'est-ce qu'ils vont nous répondre? Que si on est si fort que ça, on n'a qu'à leur montrer comment faire. Et c'est pas faux. C'est-à-dire que l'exemplarité, ça a un effet très puissant pour encourager les autres à changer. On n'est pas ridicule parce qu'on est le premier à le faire. Au contraire, on est courageux, on est aventureux, on est inspirant. Appelez au sens de la responsabilité individuelle et montrez tout ce que les autres font déjà. Je le rappelle, tout le monde doit se remettre en question. Il n'y a pas de petite action inutile. Chaque tonne de CO2 en moins compte vraiment. D'ailleurs, à l'échelle individuelle, on émet plusieurs tonnes de CO2 par an, donc il y a vraiment de quoi faire. On ne peut pas tout changer, mais via une politique d'achat responsable dans l'entreprise, on peut déjà influencer les autres entreprises de notre secteur ou nos prestataires à changer. Et mine de rien, ben cet impact plus un autre, ben c'est ça qui fait un impact global. Donc là, c'est un petit peu à vous, en tant que personne qui se préoccupe du futur de notre planète, d'engager la conversation et de trouver d'autres collègues qui pourraient penser comme nous. J'en viens un peu comme ça à un thème que j'avais déjà abordé sur le fait de trouver des alliés. Si vous identifiez et que vous rassemblez des collègues ou des partenaires qui pensent comme vous, que vous êtes de plus en plus nombreux, ben, c'est ça qui va devenir la nouvelle norme sociale. C'est à ça qu'on va se comparer. Et du coup, ben, ce sera ça l'exemple normal à suivre. Et ça enclenchera un mouvement. Donc en résumé, pour faire s'incliner notre dragon comp de la comparaison, encore une fois, on change de focus et on remet la responsabilité aux mains des personnes. On accueille leur argument, qui n'est pas faux dans l'absolu, mais on remet le focus sur nos responsabilités individuelles, sur l'aventure collective et la solidarité. Si on diminue un petit peu l'empreinte carbone de la boîte, et ben c'est toujours ça de réchauffement en moins pour tout le monde. On est vraiment des héros de faire ça, alors que les autres, ils ont même pas encore bougé. Alors, on a presque vu la moitié des dragons. Les suivants sont un peu plus simples, donc ça va aller un peu plus vite. Mais bon, en même temps, est-ce qu'on s'amuse pas comme des fous, là? Moi, entre les dragons et les stratégies, j'ai l'impression d'être dans Game of Thrones. Alors, mon prochain dragon, je l'ai appelé Queeré. Queeré pour les coûts irrécupérables. Et oui, ma créativité est sans limite, et je n'ai pas peur de me ridiculiser pour vous créer des moyens mémotechniques et vous détendre un petit peu au passage. Donc alors, qu'est-ce que c'est que ce queeré? Ça fait référence à tout ce qui était déjà engagé dans l'entreprise. Les habitudes, les process déjà en place, les investissements amorcés. Tout ce qui existe déjà, en fait. Parce qu'on ne part pas d'une feuille blanche. Les entreprises polluantes, très polluantes, moyennement polluantes, elles existent. Et peut-être qu'il faudra fermer certaines activités un jour. Et ça fait plaisir à personne. On a déjà passé du temps, dépensé de l'argent pour développer ces activités, pour développer des services. Et devoir tout changer, c'est comme si on perdait tout cet argent, comme si on perdait tout ce temps qu'on a investi, toute cette énergie qu'on a mis là dans ces projets. Donc tout ça, le financier, les comportements, l'attachement émotionnel, les habitudes, ce sont, dans notre cerveau, des coûts irrécupérables si on les change. Et là encore, il faut changer de focus. Forcément, c'est toujours pareil, parce que les dragons de l'inaction, ce sont des biais de notre cerveau. Et donc, une façon de voir les choses qui va nous empêcher d'agir. Donc si on voit les choses autrement, on va faciliter le passage à l'action. Donc ici, on va regarder ce qu'on perd dans un changement, nos coûts irrécupérables. Donc ce qu'il faut faire, c'est aider les personnes à voir ce qu'on peut gagner, au contraire. Je vais vous donner un exemple. Ok, on va arrêter de filer une place de parking voiture pour chaque salarié. Donc il y en a qui vont perdre cet avantage. Peut-être que ça va être plus compliqué de se garer le matin pour ceux qui en profitaient. On peut regarder ce qu'on y perd, mais on peut aussi regarder ce qu'on y gagne. Peut-être que si le parking était en location, l'argent économisé chaque mois, chaque année, il va permettre de financer d'autres modes de transport pour les salariés, peut-être des espaces de travail qui sont plus confortables, ou d'autres avantages que on va récupérer collectivement parce que cet avantage dont peut-être tout le monde ne bénéficiait pas n'existe plus. Ou alors on a un produit super, par exemple, je produis des très belles voitures, mais le problème c'est qu'elles polluent énormément. Donc tout l'argent investi pour développer ces voitures, les années des équipes passées à développer les voitures, à les construire, à les vendre, tout ça ne sert plus à rien. Ça se comprend que c'est dur de lâcher et que du coup, ben, les personnes, elles y voient un peu à reculons. Mais au lieu de regarder ce qu'on perd en changeant de business model, on peut se questionner sur ce qu'on y gagne. On gagne un nouvel élan, la possibilité d'innover plus facilement parce qu'on rebat les cartes. On peut y gagner le fait d'avoir une activité plus responsable, plus en phase avec ses valeurs et les valeurs de la société. Peut-être que les marges seront meilleures et on aura un meilleur chiffre d'affaires. C'est peut-être aussi l'occasion de se réorganiser pour être plus performant. On va accueillir de nouveaux talents avec des connaissances qu'on n'avait pas, etc. Il y a plein de choses à gagner dans tout ça. Et en premier lieu aussi, une planète avec des conditions de vie supportables. Donc, on regarde ce qu'on y gagne. Et si c'est un peu compliqué parce qu'on est trop focus sur ce qu'on perd, on peut aussi se dire, bon, si on repartait d'une page blanche, qu'est-ce qu'on ferait? Qu'est-ce qu'on choisirait? Et là, on peut y aller, on peut rêver un petit peu en acceptant de laisser le passé derrière, à sa place, dans le passé, sans le regretter. Allez, dragon suivant, défia, ou la défiance. La défiance, elle questionne ce qu'on nous dit. Est-ce que je peux croire le gouvernement? Est-ce que je peux croire les scientifiques? Et puis si tout ça c'était un complot? Alors ça ressemble un petit peu aux idéologies, et d'ailleurs heureusement c'est de moins en moins courant, mais on peut trouver des climato-sceptiques qui pensent que il n'y a pas de problème, c'est un cycle naturel de la Terre, en opposition aveugle à ce qu'affirme l'immense majorité des scientifiques et l'ensemble des experts du GIEC. Je me demande parfois ce que signifie ce déni, et je pense personnellement que c'est de la peur. Qu'en fait, si les personnes réalisent que c'est vrai que la planète se réchauffe avec toutes ses affreuses conséquences, c'est une réalité qui est trop dure à encaisser. Donc pour se protéger, on va se convaincre que c'est faux. Et du coup, là, c'est l'occasion pour moi de vous dire que franchement, vous pouvez être fiers de vous, vous qui écoutez ce podcast, parce que vous êtes courageux. Vous regardez le problème en face et vous êtes prêts à vous relever les manches et vous êtes prêts à questionner vos habitudes pour régler la situation. Donc, bravo pour ça. C'est quelque chose que vous pouvez vous rappeler quand vous vous sentez démotivé. Franchement, comparez-vous à un climato-sceptique qui croit qu'il n'y a pas de problème parce qu'il a peur. Hein, vous, au moins, vous êtes courageux et vous y allez. Bon, qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces climato-sceptiques? Peut-être que c'est des personnes à qui on va pas parler de changement climatique. Si elles sont pas prêtes à l'accepter, ben franchement, on va pas perdre d'énergie à essayer de les convaincre nous-mêmes. On va peut-être leur parler plutôt d'adaptation. Parce que y a quand même des choses qu'on peut pas remettre en question, c'est-à-dire le fait qu'il fasse très très chaud cet été, qu'il y ait des canicules de plus en plus longues ces dernières années. Bon bah oui, c'est un constat, c'est un fait. Donc, par exemple, si on parle d'adapter le bureau aux canicules, parce que comme ça, ça permettra de se sentir mieux au bureau, c'est quelque chose qui va permettre de pas les paniquer en leur rappelant la cause de pourquoi il y a des canicules, mais au moins, ils agissent dans ce sens-là. Et après, si on a peur que ce qu'on propose, même si c'est de l'adaptation au changement climatique, ce soit remis en question, ce qu'il faut faire, c'est expliquer l'action. Il faut qu'elle soit très très claire, très transparente, avec ce qu'on sait, avec ce qu'on ne sait pas, ce que ça permettra d'atteindre comme objectif très concrètement. Et plus la communication, elle sera transparente, plus on informera, et plus cette défiance, elle va diminuer. Et un autre conseil pour diminuer la défiance, c'est de trouver quelqu'un qui a les mêmes valeurs que la personne, ça peut être un leader d'opinion, ou un collègue proche par exemple, et de montrer que cette personne-là, elle y croit. Et en fait, il y a un espèce de phénomène psychologique qui fait que si la personne dont je me sens proche, dont je partage les valeurs, croit en quelque chose, je vais peut-être me réinterroger pour vérifier si finalement, je ne serais pas d'accord avec elle. Une façon assez simple de changer des avis. Allez, sixième dragon, risque. Et risque, il représente les risques perçus. Tout ça, ça peut être un peu lié à la défiance. En fait, ça va être un frein supplémentaire si jamais, voilà, on passe ce stade de la défiance. On croit que oui, ce qu'on va faire, ça va fonctionner, c'est efficace, j'y crois, c'est bon. Alors, imaginons que je présente une action écolo au boulot. Par exemple, on va offrir une indemnité kilométrique aux salariés qui viennent à vélo pour les encourager à utiliser ce mode de déplacement. Alors oui, je sais que je donne beaucoup beaucoup d'exemples dans la mobilité, mais m'en voulez pas, c'est mon secteur d'activité, donc j'ai une grosse déformation. Et puis aussi, c'est quand même un sujet qui parle à tout le monde, parce qu'a priori, l'immense majorité des personnes se déplacent au moins une fois par semaine pour aller travailler. Donc voilà, une indemnité pour ceux qui viennent à vélo. Et je présente ça au comité de direction. Et là, ils vont me pointer les risques. Est-ce que ça va marcher ? Et est-ce que vraiment l'argent, ça va faire pédaler les gens? Et puis combien ça va coûter si tout le monde vient à vélo? Ça va être un gros budget. Et puis comment on va le vérifier? Parce qu'il y a des gens qui peuvent tricher. Et puis s'il y a des accidents à vélo sur le trajet, ça va faire des accidents, des gens qui vont être absents, etc. Bon, vous avez compris l'idée. Ici, le frein, c'est le risque qu'on y voit. Et donc, c'est pas que les personnes, elles sont contre. voilà, elles identifient ces risques qui peuvent leur causer des problèmes derrière, et donc il va falloir rassurer ces personnes-là et peut-être mettre en place des choses pour diminuer les risques. Donc voilà, ça c'est quelque chose que vous pouvez anticiper au moment où vous préparez une action. Moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est d'interroger des personnes ou des entreprises qui ont déjà mené ces actions et demander s'ils ont pensé à ces risques-là et comment ils les intègrent. Et souvent, vous verrez que c'est très rassurant. Et enfin, notre dernier dragon, je l'ai appelé Limito. Oui, je sais qu'il y avait déjà Limita, mais du coup c'est son frère, c'est Limito. Et il représente le changement de comportement limité. Ça prend deux formes. La première forme, c'est les petites actions symboliques. Alors, évidemment, je ne vais pas vous dire que les éco-gestes, c'est nul et ça sert à rien. Mais si on ne fait que ça dans une entreprise, et qu'on dit qu'on agit vraiment pour l'environnement avec ça, y a quand même un problème. Bien sûr que les actions faciles, elles motivent, elles donnent une dynamique, mais il ne faut pas oublier les autres. Et donc là-dessus, avoir une vision complète, une direction, une stratégie environnementale, c'est essentiel pour traiter aussi les sujets les plus émetteurs de gaz à effet de serre, les plus impactants sur l'environnement. Peut-être parfois les plus compliqués aussi, mais c'est pas pour rien qu'ils sont plus efficaces. Donc voilà, c'était la première forme, se concentrer que sur des petites actions symboliques, oublier un peu les ordres de grandeur. Et la deuxième forme de limito, c'est l'effet rebond. Vous savez, c'est les gens qui disent « j'ai pas de voiture, donc je peux bien prendre l'avion de temps en temps ». Ou alors les personnes qui, avec le télétravail, vont vivre plus loin, donc font plus de kilomètres en voiture qu'avant. En fait, on a fait une bonne action pour l'environnement, mais on compense avec une mauvaise. C'est un peu comme les gens qui font des régimes, qui disent « j'ai mangé une pomme ce matin, donc je peux manger un pain au chocolat cet après-midi ». Ça a pas de lien, en fait. Ou alors les personnes qui ont une voiture électrique et qui roulent plus qu'avant, parce qu'elles se déculpabilisent, elles disent « c'est bon, je roule à l'électrique, donc je peux utiliser ma voiture ». C'est un dragon très ironique, parce qu'en fait, les personnes, elles essaient de bien faire à la base. Mais là, il y a qu'une seule solution, c'est les féliciter pour leur bonne action initiale. C'est quand même un comportement qu'ils ont changé, on peut les féliciter. Et leur rappeler gentiment que les efforts pour atteindre la neutralité carbone du pays et de la Terre, ils sont immenses, ces efforts-là. Et qu'une seule action, ça va malheureusement pas suffire. Et il va falloir en combiner plusieurs. A priori, ce sont des personnes ouvertes, puisqu'elles ont déjà commencé à faire des choses. Donc on peut y aller franchement. Mais toujours avec tact et diplomatie pour ne pas froisser les gens. Voilà, on a fait le tour de nos 7 dragons de l'inaction. Je vais les récapituler pour que vous les ayez bien en tête. Mais pas de panique, il y aura aussi un article sur le site internet d'Écolo au Boulot où vous pourrez les retrouver. Donc nous avions Limita, Idea, Comp, Quire, Defia, Risk, Limito. Je vais vous redonner le détail de tout ça, parce que mes noms sont un petit peu...
Bonjour et bienvenue dans Écolo au Boulot. Je suis Cassandre Joly. Et mon but est de donner du sens au travail à travers l'écologie. Ensemble, nous trouvons des idées, des astuces, de la motivation et de l'inspiration pour rendre son quotidien au travail plus écologique et se sentir utile.
Tu peux pas très clair. Alors, Limita, c'était les limites de notre cognition qui nous empêchent de voir les problèmes, mais qu'on peut vaincre grâce à de l'information et de la pédagogie. Ensuite, nous avions IDEA, les idéologies, du genre « la technologie va régler le problème », qu'il faut faire réatterrir dans le présent au lieu de se projeter dans le futur et travailler sur ce qu'on peut faire aujourd'hui. Puis il y avait Comp, notre dragon de la comparaison, dont on accueille la frustration, mais qu'on responsabilise. Derrière se cachait Quire, les coûts irrécupérables, et pour le vaincre, on lui demande de réfléchir à ce qu'il y a à gagner, plutôt que de penser à ce qu'il y a à perdre. Ensuite, Defia, qui disparaîtra face au bouclier de la transparence, de la clarté, des explications, ou encore de leaders d'opinion qui peuvent influencer et faire tomber cette défiance. Puis venait Risk, les risques perçus, qu'il faut rassurer, et qui se transformera en agneau tout doux. Et enfin, Limito, le frère jumeau de Limita, qui provoque un changement de comportement limité, à qui on donne à la fois un plan stratégique clair et complet pour limiter les petites actions, et aussi des ordres de grandeur pour arrêter de compenser une habitude écologique par une autre qui ne l'est pas du tout. Alors, vous êtes prêts à battre les dragons ? Même pas peur.
Merci encore d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et si vous cherchez d'autres idées, je vous conseille mon livre « Écolo au boulot, 60 éco-défis pour agir » publié aux éditions Jouvence et disponible chez vos libraires. Maintenant, à vous de jouer ! Ciao !